Everything I do. reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à Nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, Kilson, quand le soleil descend. Une chanson d'amour qui dit qu'il n'y a qu'un dieu, un pays, trois couleurs. 12 tribus dans la Bible, des coups de flingue dans la cible. Des blancs pour le gâteau, 500 000 au ghetto. 1 million dans la ville qui brûle en plein soleil. 2 millions dans une île juste en dessous du ciel. Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Quand le soleil descend, attends, si tu prends ma machette juste entre les oreilles, c'est fini pour la fête, fini pour le soleil. Plus j'ai faim, plus je fume, plus je fume, plus je crois. Le de qui m'a bâti doit fumer comme moi. Comme lui, je danse comme un fou. Le lion des Rastas rôde dans les villas. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, Kilson, quand le soleil descend. Sur les grilles des familles d'en haut, la brume qui scintille au-dessus du gâteau. À Trenchtown ça bouge, t'arrêtes pas au feu rouge. À Tivoli Garden, no good man. La lumière qui saute, Kingston est dans le noir. Les gunmen qui rôdent, transformés en passoires. Et la mort qui s'en va, affamé comme moi. Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Kingston, Kilson, quand le soleil descend.
The lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll. A lot of soul to say. And then the loud sound, it seemed to fade, hey, hey. Came back like a slow voice on a way for fate, hey, hey. That was no DJ, that was Hazy Cosby. We'll be right back.
Happy birthday. Du Buzz Non Radio Show.
89.4.
Ouais, super.
You're
et ciao, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Libertaire pour déplier le chiffon en ce beau matin d'automne. À vol d'oiseau, pas très loin du Père Lachaise, un des endroits de Paris particulièrement intense pour contempler la saison. Voilà un moment que nous vous avions réveillé, pause estivale oblige, puis quelques problèmes de régisseur, mais nous revoilà. Ce matin, un petit peu en retard, sans mansuétude pour les esprits encore embrumés, laissez-moi vous livrer tout de go une réflexion générale qui personnellement a traversé toute une année d'études sans réponse absolue. Peut-on gérer l'État comme une entreprise privée ? Pour apporter un éclairage concret à cette question quasi métaphysique compte tenu de la teneur des débats, deux invités en lutte au cœur de Paris. Alors que l'île de la Cité, résidence éternelle de Notre-Dame et de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, est en passe de se métamorphoser. D'abord David Frémiot, qui travaille à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Paris depuis 2005 en tant qu'agent de sécurité, mais surtout militant CGT, deux candidatures sans étiquette pour les municipales dans le 4e arrondissement, comme tête de liste en 2014 et en 2020 comme colistier. Et à ma droite, Maxence Écart, membre du conseil de quartier depuis 2016, vice-président 2018-2020, dirigeant l'atelier aménagement de l'Hôtel Dieu, président depuis 2022 de l'association Défense du site de Notre-Dame et de ses environs. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes déjà réveillé, j'ai évoqué en début d'émission une proposition commune. Et par nous, j'entendais Le Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue, où comment l'actualité d'un temps plus long peut replacer certains mirages à leur juste place d'illusion. Un journal qui s'éloigne de la dernière polémique feu de paille, de l'actu qu'on pourrait décrire comme tiède, qui peut se relire bien après sa parution en restant instructif. Pour venir nous découvrir ou nous rejoindre en proposant un sujet, chaque nouvel arrivant apportant son souffle, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse le-chiffon@riseup.net. Dans le numéro d'été, deux articles au sein de notre dernier numéro intéressent la métropole et spécialement l'île de la Cité et le sort de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Une ligne éditoriale avec ça peut-être. Froncer au moins un sourcil sur deux quand la magie de la novlangue enrobe le progrès de paillettes trop scintillantes. Alors, sans plus attendre, bonjour David et Maxence et bienvenue. Merci
bonjour.
D'être là.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez achever la courte biographie que j'ai dressée de vous ?
Vas-y Maxence.
Bon, bah, moi, bonjour à tous les auditeurs. Donc, moi, j'ai 63 ans. J'ai 6 enfants dont l'aîné a 11 ans. Et j'habite depuis près de 30 ans rue d'Arcole, donc en face de l'Hôtel Dieu. C'est vraiment une grande chance. Aujourd'hui, s'il fallait revenir, je pourrais pas y revenir étant donné les prix que c'est aujourd'hui. Je travaille dans une compagnie d'assurance. Et pour moi, la défense de l'endroit où je vis, c'est essentiel. Et c'est pour ça que je participe au conseil de quartier et je également à cette association dont on m'a demandé de prendre la présidence et qui est une association ancienne dont je vais dire quelques mots parce que je la représente. Elle a 50 ans et cette association, c'est grâce à elle que on n'a pas eu une voie express de voiture rive gauche. C'est grâce à elle que les bus de touristes n'ont plus le droit de stationner sur le parvis. Enfin, c'est vraiment une association qui a défendu, je pense, le bien commun des Parisiens du centre avec beaucoup d'opiniâtreté. Elle est complètement apolitique et tout le monde peut y adhérer. Je vais donner rapidement c'est 11 quai aux fleurs dans le 4e. Vous pouvez, il y a un site qui s'appelle Défense Site de Notre-Dame, tout attaché, typepad.fr. Voilà.
Très bien, on redonnera les références en fin d'émission. Avec un ouvrage qui résume 50 ans de lutte disponible à l'adresse que vous venez de citer. Et du coup, David, à vous.
Moi, c'est David. Bon, pareil, ça fait environ une trentaine d'années que j'habite sur Paris. Et je travaille à l'Hôtel Dieu depuis 2005, où j'ai exercé différents métiers. Et aujourd'hui, j'y suis agent de sécurité incendie de nuit. Et je défends l'Hôtel Dieu bête et ongle contre sa fermeture et sa modification.
Et oui, vous évoquiez ça il y a un instant, on va y revenir sur cette lutte pluridisciplinaire. Dans le prolongement du questionnement introductif que je livrais aux auditeurs, j'aimerais me reporter à l'article de la chiffonnière Marion, dans le dernier numéro, lorsqu'elle cite la réforme de l'hôpital public, un management sans ménagement du professeur Daumin. Alors je cite le professeur, « L'hôpital subit depuis 30 ans les réformes issues du nouveau management public qui vise à en faire une entreprise comme les autres et à réduire les coûts. » Et j'aimerais vous demander d'abord ce que ça vous évoque de « L'État est-il une entreprise comme une autre, a fortiori l'hôpital ?»
L'État n'est pas une entreprise et a fortiori l'hôpital, pas du tout. On est là pour rendre un service, on est là pour soigner la population et on n'est pas là pour faire du chiffre et rapporter de l'argent.
Et les considérations d'intérêt général, l'intérêt général qui, je le rappelle, n'est pas qu'un vain mot, mais un vrai principe juridique
c'est ça.
Applicable. Peut-être une réaction, Maxence ?
Oui, je pense que... moi, je suis pas un spécialiste de l'hôpital, mais on peut reprendre les propos, par exemple, d'un très grand médecin qui est le professeur Perronne, vous savez, qui s'était pas mal opposé à la politique gouvernementale sur le Covid. Et lui, il considère que il y a un véritable projet de faire disparaître l'hôpital en tant que service public, pour le remplacer par un système à l'américaine de cliniques privées, avec une logique évidemment beaucoup plus financière, mais le service public, ça veut dire quand même quelque chose d'égalitaire pour tous, et avec un certain désintéressement des personnels de santé, si vous voulez. Et c'est très clair que la crise du Covid, enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'a montré, depuis 10-15 ans, on réduit les nombres de lits. Je crois, David, vous disiez qu'à l'Hôtel Dieu, on était passé de 2500 à 500 lits et à 2500 personnes à 500 personnes. Donc on réduit les lits, puis en même temps, quand il y a une crise sanitaire, eh ben on ne sait plus où mettre les malades, quoi. Hein.
Très bien. Alors, j'aimerais revenir, après ces petites considérations sur le service public, je voulais préciser aux auditeurs, quand vous dites qu'il n'y a pas de volonté de rentabilité, il y a un principe, en tout cas en droit du service public, qui s'appelle l'universalisme budgétaire. Et par exemple, pour la RATP, une ligne Plouhenec-Lannion n'est absolument pas rentable, mais la ligne Paris-Lyon, par exemple, qui est très rentable, permet de payer les lignes moins rentables.
Mais sauf que c'est vrai que la politique du gouvernement, quand même, depuis maintenant plusieurs décennies, ça consiste à vouloir rentabiliser chacun des projets. Et les rentabiliser, ça veut dire en fait de diminuer le service public sur les projets moins rentables. Enfin, je crois que c'est malheureusement, en tant qu'usager, on le constate tous, hein, et c'est ça qui est un peu dommage.
Avant de vous interroger sur la genèse de vos engagements, j'aimerais lancer un questionnement à l'auditeur. Je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette citation, pourtant très à propos. Je vous invite à nous contacter en studio au 01 43 71 89 40 si vous avez la bonne réponse. Oui, nous croisons les doigts que ça fonctionne en régie. Qui est l'auteur de la citation qui visait à dire que certains aujourd'hui croient aux chiffres comme hier on croyait aux esprits ? Impossible de retrouver l'auteur de cette citation. Si un auditeur affûté peut nous trouver la réponse et venir participer, bien sûr, n'hésitez pas. 01 43 71 89 40. Ceci étant fermé, j'aimerais revenir sur la genèse un peu de vos engagements politiques et syndicaux. Et quel a été le déclic bien avant les débats sur l'île de la Cité que nous allons aborder dans un court instant? Quel a été le déclic pour vous de vous intéresser à...
En fait, c'est quand je suis arrivé à l'hôpital Hôtel-Dieu, quand j'ai commencé à travailler là-bas... Je me suis retrouvé avec des camarades qui m'ont emmené pour militer, qui m'ont expliqué comment ça se passait le syndicat, etc., etc. C'est comme ça que je me suis engagé. J'ai commencé en 2006.
Un an après avoir commencé.
À l'hôpital.
Et ça vous a déjà rendu rebelle.
Non, j'étais déjà rebelle. On fait. Je pense qu'on fait pas ça par hasard, hein, mais on a tous, parce qu'on a tous des convictions, mais. Mais ouais, j'ai commencé en 2006 et puis après, défendre les collègues, les conditions de travail, et puis après, la défense de mon hôpital, enfin, quand on travaille à un endroit, on y est attaché et puis après, c'est un bien commun. Enfin, l'hôpital, c'est un bien commun, donc voilà. c'est comme ça que ça commence.
Et pour vous, Maxence ?
Alors, moi, j'ai pas d'engagement politique ou syndical, si vous voulez. Hein. Moi, c'est vraiment, je représente une association, puis j'ai pas d'activité à côté particulièrement. Et moi, le déclic, c'est que je vis à cet endroit-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de manœuvres, en fait. Que tout le monde, comme c'est le centre de Paris, ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Les pouvoirs publics ont des tas de projets. Et je me suis dit, ça va impacter directement ma vie et la vie de ma famille. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je m'y intéresse. C'est de la curiosité au départ. Et puis, maintenant... comme malgré tout le nombre de gens qui s'intéressent à ça est limité, bah on m'a demandé peu à peu, est-ce que tu peux prendre un peu plus de responsabilités. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette association. Mais c'est un souci local, parce que ce qu'on ne dit pas trop, et je crois qu'il faut quand même le dire, c'est que dans l'île de la Cité, dans l'hypercentre de Paris, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent, et à côté des millions et des millions de touristes qui viennent chaque année, il y a une vie de village où les gens se connaissent. Moi, pour vous donner une petite anecdote, j'avais un garçon de 4 ans, un jour en plein été, qui est allé avec son grand-père dans la cathédrale pour juste visiter. C'était noir de monde, plein de touristes de tous les pays. Et puis, du fin fond de la cathédrale, il a décidé de rentrer à la maison. Et donc mon grand-père, son grand-père n'arrivait pas à se faufiler dans la foule, il est rentré. Le parvis était noir de monde. Il a traversé tout seul la rue. Et bien là, il y a quelqu'un du quartier, un habitant, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et qui l'a récupéré au milieu de la foule et qui l'a ramené chez lui. Donc c'est vous dire qu'il y a une double vie. Il y a une vie locale, avec des gens qui se connaissent, comme dans un village. Et puis à côté de ça, il y a une marée humaine de touristes.
Donc, parfait. Bah, je vais vous lancer ma prochaine question. Je voulais m'adresser, avant de m'adresser aux militants dans un second temps, juste après la pause musicale qui va venir dans un instant, je voulais m'adresser aux hommes que vous êtes. Nous n'avons ni vous ni moi l'âge d'avoir connu la bohème d'Aznavour. Mais comment avez-vous perçu, vous qui avez plus de 30 ans d'existence à Paris, quel changement vous avez perçu depuis les années 90, sachant que Paris s'est quand même métamorphosé depuis le temps?
Je vais faire mon vieux con, même si je suis pas vieux.
Allez, c'est le moment. Il est 10h31, ouais. Vous avez le droit.
C'était mieux avant. Alors, pourquoi je dis c'était mieux avant? Parce que Paris, pour moi, c'était toutes sortes d'excentricité. Il y avait de tout et de rien. Tout le monde se parlait. Il y avait toujours des rendez-vous le vendredi soir, le samedi soir, des rassemblements, des choses comme ça. Alors, ça peut être tout et rien, mais... il y avait une autre ambiance, une autre atmosphère, et après moi j'aime bien l'architecture aussi, donc il y avait cet aspect qui faisait que Paris était Paris, et aujourd'hui tout ça a tendance à disparaître. Il y a plus tous ces rassemblements, il y a plus toutes ces choses festives, enfin moi je trouve. Après peut-être sors moins aussi, hein. En vieillissant on sort moins, mais
j'invite les auditeurs à se connecter sur le site Paris Lutte Info avec l'agenda de tous les rassemblements en cours, et la vie militante est quand même toujours vivace.
Je sais pas, il y avait, après je suis peut-être nostalgique, hein, mais ça faisait plus un Paris authentique qu'aujourd'hui, avec des grands buildings, des immeubles, enfin tout est un peu aseptisé, les gens se parlent plus. Enfin, moi, c'est mon ressenti, mais... puis c'est un bordel monstre. Enfin, Paris, pour moi, c'est un bordel monstre aujourd'hui. J'avoue que j'arrive à un stade où je me dis, un jour ou l'autre, je partirai parce que j'en peux plus.
Vous faites écho à une précédente émission où on avait reçu deux personnes sur la mobilité et qui évoquaient le fait que maintenant, on a beaucoup de quartiers dortoirs ou des quartiers pour travailler, que les immenses couloirs des RER qui vont devenir aussi rapides que la lumière nous empêchent effectivement de nous rencontrer par l'architecture et par la division même du territoire urbain. Maxence,
moi, c'était un petit peu le même constat. Enfin, moi... pour parler du quartier dans lequel je vis, quand je suis arrivé dans la rue d'Arcole, il y avait une boucherie, il y avait une bijouterie, il y avait des tout petits commerces, vous voyez, il y avait une petite marchande de journaux dans une petite guérite sur une fenêtre, enfin, il y avait tout un tas de choses. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des marchands de glace, des marchands de souvenirs. Bon, on n'a rien contre les marchands de glace et les marchands de souvenirs. Les glaces sont plutôt bonnes d'ailleurs. Mais c'est vraiment un changement d'atmosphère. Vous voyez, et il y a actuellement toute une polémique sur les bouquinistes qui disparaissent.
Ouais, sûr.
Mais c'est aussi une vie qui disparaît. Autour de Notre-Dame, dans le 5e et tout, il y avait des tas de marchands de vieux livres. Ben, aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein.
Oui, les bouquinistes qui sont un emblème de Paris. D'ailleurs,
qui sont un emblème
sur votre
de Paris.
Site, le site de votre collectif,
ouais, bien sûr.
Il y a la pétition que les auditeurs sont invités à les signer quand même, la suppression de ces bouquinistes au nom des JO, je ne sais pas, est-ce que ça va choquer les touristes ?
Donc il y a une vie plus humaine qui disparaît, je dirais, au profit de flux.
J'avais une petite, pardon,
oui, allez-y.
Désolé, pendant les municipales en 2013, bon, c'est un sujet con, hein, mais j'avais fait un petit calcul vite fait comme ça. Alors après, c'est pas assez approximatif, mais on retrouve de Bastille aux Champs-Élysées les mêmes boutiques, c'est-à-dire les mêmes boutiques tous les 700 mètres.
Ouais, c'est sûr.
Et oui, comme dans
Paris Centre, le quartier, c'est encore pire parce que c'est tous les, enfin, c'est de l'approximation, mais c'est à peu près tous les 200-300 mètres. On retrouve les mêmes boutiques tous les 200-300 mètres.
Et oui, les mêmes enseignes. On va se retrouver dans un instant après un premier constat qui peut déprimer l'auditeur encore mal réveillé. Mais pour parfaire votre réveil et répondre au questionnement de l'intro, je vous invite à venir nous contacter si vous souhaitez réagir. Voici ce qu'on peut appeler de la musique lumineuse aux fréquences pures ou ce que les disquaires rangent sous la bannière de minimal. On écoute tout de suite le Danois Kölsch avec son morceau Goldfish. We'll be right back. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste qui n'a ni pub ni système hiérarchique. Pour l'émission du Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue élargie. Après cette purification des tympans avec le danois Kölsch, nous revenons tout de suite en terre d'Île-de-France et d'Île-de-la-Cité. Nous avions commencé à évoquer la fermeture d'une partie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à deux pas de Notre-Dame. Et nous reviendrons sur l'actualité dense qui entoure le destin du plus vieil hôpital de Paris. Mais pour bien comprendre, nous allons revenir à la genèse des débats. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, mais un Hôtel-Dieu, je l'ai appris en préparant cette émission, est une appellation ancienne. Après la chute de l'Empire romain occidental, l'Église était la seule à même de proposer des structures d'accueil, de protection et de soins au sein des villes organisées en évêché. Bien sûr, rien n'étant jamais désintéressé, c'était à l'époque aussi un moyen d'évangélisation, soigner et apporter la bonne parole. Aujourd'hui, l'Hôtel Dieu de Paris, il y en a plusieurs en France à valeur de symbole, le plus ancien hôpital de Paris, fondé en 651 par l'évêque parisien Saint Landry, a été reconstruit entre 1867 et 1878. Mais pour que l'auditeur puisse bien comprendre donc, l'importance de la question, revenons à des débats qui sont déjà anciens, et je me tourne notamment vers David, qui était de toutes les luttes, notamment des municipales. On évoquait déjà cette fermeture dès 2013, et même peut-être... avant, ça avait coûté la place de la directrice de l'époque, Mireille Faugère, ouais. D'ailleurs. Où est-ce que vous en étiez en 2013? Est-ce que vous avez commencé en 2006?
En fait, ça a commencé en 2010, pour être exact. C'est-à-dire que nous, le syndicat, dans les instances, enfin la CGT pour la cité, on dénonçait déjà le fait que l'Hôtel Dieu, il n'y avait pas eu de travaux de mise aux normes incendie dans l'hôpital. Et donc à l'époque, la direction nous rétorquait systématiquement « Mais vous êtes fous, si les gens apprennent ça, on peut fermer l'hôpital, où on va soigner les gens, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, etc. » Et en 2010, tout le monde se lève pour aller au travail et dans le journal, on apprend que l'Hôtel Dieu va fermer. Voilà comme on l'a appris. C'est-à-dire qu'ils ont même pas le courage de venir annoncer la fermeture aux gens qui y travaillent. Et la lutte, elle a commencé de là.
Parce que après l'argument budgétaire, l'argument de la mise aux normes est
important. Voilà, c'est ce qu'ils utilisent systématiquement. C'est-à-dire que quand il y a pas, c'est une mise aux normes incendie impossible, trop de travaux, ça coûte trop cher, etc., etc. Je rappelle quand même qu'ils avaient, même si c'était pas tout ce qui avait été demandé, il y a eu avant 2010 5 millions de travaux à peu près de remise aux normes, une petite remise aux normes incendie, mais voilà quoi. Et la grosse bataille après, où ça a pris un peu d'ampleur en fait, médiatique on va dire, c'est parce qu'il y avait les municipales et donc tous les politiques, alors qu'ils y croient ou pas, hein, parce que je vais pas dire que tout le monde n'y croit pas, mais se sont emparés du sujet parce que c'est un sujet qui fait que on met en avant et que c'est bon, politiquement c'est bon de défendre l'hôpital public.
Bien sûr. Et du coup, en 2013, qu'est-ce qu'a expliqué ce premier refus et le fait que la directrice tienne le fusible pour l'époque?
Je pense que c'était devenu un sujet trop médiatique en fait. Et du coup, d'un moment, faut trouver un pion à éjecter. Et je rappelle que les directeurs, et c'est sans méchanceté contre eux, mais les directeurs sont que des pions. On les change tous les 3-4 matins, donc voilà, ils sont là, ils appliquent les ordres, et si ça fonctionne pas, ils dégagent, et puis voilà, on en met un autre qui est censé faire mieux.
Et le serpent de mer revenait en 2015, où la commission médicale d'établissement de la PHP rejetait à nouveau le projet. Qu'est-ce qui avait changé 2013-2015? Pourquoi le sujet revient? Est-ce que le climat général a changé?
Non, en fait, je pense que c'était Martin Hirsch est revenu. Alors après, c'était plus une session complète de l'Hôtel Dieu. C'était plus une session partielle. Enfin, quelque chose. On allait garder quelque chose. Il voulait garder quelque chose d'hospitalier entre guillemets, etc. Donc après il fallait trouver un projet médical, etc. Parce qu'on nous a vendu une maison debout, on nous a vendu plein de choses au départ.
Oui, beaucoup de choses jusqu'au projet aujourd'hui, on va y revenir dans un instant.
On nous a vendu beaucoup de choses jusqu'à un moment en fait où, comme je dis, ouais, c'est Martin Hirsch qui, pour se porter en sauveur de l'Hôtel Dieu, a dit non, on va pas fermer totalement, on va garder une partie hospitalière, etc. Mais après, il faut trouver les financements.
Ouais, ben je crois que vous dites vraiment le mot clé. Hein. Tout ça, c'est on parle d'une affaire financière en fait. L'Hôtel Dieu, c'est 60 000 m². Placé où c'est l'hypercentre de Paris, ça a pas de prix si vous voulez. Et donc la PHP en fait avait pour objectif depuis toujours de réaliser une opération financière. Bon, mais la finance a ses limites quand même. Et je crois que vous l'avez bien rappelé, Paul, tout à l'heure. Il y a ça, c'est quand même un monument qui a une histoire qui a plus de 1000 ans. C'est donc c'est quelque part changer un peu l'identité de Paris que de supprimer cet hôpital qui a dû voir passer des millions de malades au travers des siècles, quoi. C'est un peu dommage, cette logique strictement financière. Or, c'est elle qui commande, en réalité, tout le projet tel qu'il a été développé. Hein.
Donc, beaucoup d'atermoiements, 2010, 2013, 2015. On arrive au 16 décembre 2016, où Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et Dominique Perrault, architecte, remettaient au président de la République le rapport sur la mission et ce qu'il convenait de faire. À noter qu'aujourd'hui, M. Bélaval est conseiller culture du président. Comment s'est passée la réception de ces études, vous, Réjouin?
C'est vraiment absolument essentiel, ce qu'on a appelé la mission Île de la Cité. Donc, vous le savez, François Hollande, comme un peu tous les présidents, veut laisser sa marque dans la pierre de Paris pour qu'on parle de lui dans le futur, je suppose. Enfin, on aurait peut-être les mêmes réactions si on était à sa place. Et donc, sachant qu'il aurait peut-être un peu de mal à être réélu, il a lancé une mission, en fait, qu'il a confiée à deux personnes qui étaient jugées expertes. Donc il y avait Dominique Perrault qui est un vous le dites dans le chiffon, un star-architecte, c'est-à-dire un architecte très connu au plan international, qui a refait des tas de monuments, et puis Bélaval, qui était le directeur du Centre des Monuments Nationaux. Alors je crois qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que l'île de la Cité, elle est quand même assez vieillotte. Elle n'a pas été refaite depuis assez longtemps, et donc on peut comprendre que à un moment il y a un besoin de rénovation, de restauration. Et ça, je pense que tous les habitants le comprennent, tous les gens qui y travaillent le comprennent. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais néanmoins, ce que les habitants ont très mal ressenti, c'est l'esprit dans lequel a été menée cette étude. Alors cette étude, je vous rappelle que vous pouvez la trouver sur Internet, hein. Ça s'appelle Mission Île de la Cité. Vous la trouvez sur le site de Dominique Perrault. Il y a encore des choses sur le site de la préfecture de Paris. Enfin, vous trouvez assez facilement ce rapport. Alors je vais en dire trois mots si c'est possible. Parce que c'est vraiment très important, puis ça permet de comprendre tout ce qui s'est passé après, si vous voulez. Alors, juste une petite citation de ce rapport qui a donc été remis au président de la République le 7 décembre 2016. Et donc, Philippe Bélaval et Dominique Perrault disent au président: donc, il s'agit de faire évoluer l'île au monument vers une île monument. Alors là, tout est dit en réalité. Parce que, effectivement, l'île de la Cité, il y a plein de monuments. Vous avez l'ancien palais des rois qui maintenant était le tribunal de Paris, si vous voulez, la cour d'appel, la cour de cassation. Vous avez la Sainte-Chapelle construite par Saint-Louis, vous avez Notre-Dame, vous avez plein de monuments partout, et l'Hôtel Dieu en est un, si vous voulez. Mais il y a quand même une grande différence de dire il y a plein de monuments, puis ça devient une île monument. Une île monument, c'est, alors on parle d'une cité écrin, ben ça veut dire que c'est une vitrine de musée, en fait. Et donc, Ça veut dire que c'est plus tellement important qu'il y ait des gens qui y travaillent vraiment, c'est plus tellement important qu'il y ait des habitants, qu'il y ait tout cela. Alors, peu à peu, cette politique qui a été donc décidée au plus haut sommet, puisque le rapport a été décidé par le président de la République, et on imagine bien qu'avant qu'il soit rendu officiellement public, il y a eu des tas d'échanges avec la présidence de la République pour en approuver les grandes lignes, si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a peu à peu délocalisé les services publics qui étaient dans l'île de la Cité historiquement, puisque c'est le centre de Paris, c'est là qu'étaient les pouvoirs régaliens de décision, et bien peu à peu, tout ça, on l'a dispersé assez loin dans Paris. Donc je parle de la cour d'appel, le tribunal d'instance, la cour d'appel, je parle de la direction de la police, je parle évidemment de l'Hôtel Dieu, mais ça avait fait tellement d'histoire, David, vous le disiez. Donc l'Hôtel Dieu, il y a 10 ans, je crois, ou 15 ans, il y avait 2500 salariés, maintenant il y en a 500, il y avait 400 lits, il y en a plus que 60. Donc peu à peu, on l'a éteint, on l'a étouffé, on l'a réduit, si vous voulez. Et puis, donc tout ça, ça fait des gens qui travaillent, qui ne viennent plus travailler. Ils sont remplacés, évidemment, par des activités qui sont plus touristiques. Alors, on n'a rien contre les touristes, hein, évidemment, ils créent beaucoup d'emplois, ils font des tas de choses. Mais enfin, on sait qu'aujourd'hui, en Europe, tout le monde revient du surtourisme. Hein, vous voyez, à Barcelone, à Venise, tout le monde limite le nombre de touristes parce qu'on sait que finalement ça fait plus de mal que de bien, parce qu'on sait qu'il y a des réseaux touristiques et que finalement la marge dégagée par le tourisme ne va pas forcément à la ville, elle est conservée. Vous voyez, par exemple, il y a des voyagistes chinois, on peut pas leur en vouloir. En fait, ils font venir leurs clients, mais ils les mettent dans des hôtels qui leur appartiennent, ils les font manger dans des restaurants qui leur appartiennent, ils leur font acheter des souvenirs dans des magasins qui leur appartiennent, et finalement, ça ne sert pas, ça ruisselle pas tant que ça, si vous voulez, quoi. Hein.
Très bien, on va arriver à l'actu, hein, juste sur la prochaine partie. Un mot peut-être pour introduire ce qui va suivre sur Novaxia, qui est l'entreprise qui remporte finalement le marché en mai 2019, après un appel d'offres qui datait de 2017. Et dans le projet, le directeur général du développement nous déclare qu'il n'a jamais autant travaillé qu'à un niveau de détail inédit pour répondre à cet appel d'offres qui est tout de même prestigieux. Fondée en 2006, cette société se présente comme spécialisée dans des projets de transformation immobilière en réponse aux besoins des collectivités. Elle met en avant le concept de recyclage urbain, rachat de bâtiments vides pour transformation en logement. En tiers-lieu ou en campus de biotechnologie. Je pense au tiers-lieu, à un numéro du Chiffon qui a été très bien vendu. Sur les tiers-lieux, si vous pouvez le trouver, c'est maintenant quasiment des archives. L'assurance péremptoire qu'il n'y aura ni Starbucks, ni McDo, ni intervention trop voyante sur le bâti. Comment vous réagissez-vous à toutes ces rhétoriques utilisées par ce prestataire qui a l'air de vouloir...
Déjà, il y a un truc à dire, c'est que Novaxia, ils se sont emparés de plusieurs marchés... chantiers. Alors je vais appel d'offres public, mais on va le dire, je vais le dire comme ça, mais parce qu'il y a normalement il y a un procès qui va être engagé, mais Jean-Louis Missica qui était chargé du patrimoine à l'Hôtel de Ville, un bras droit d'Hidalgo. On a des doutes puisqu'il y a, comme je disais, il y a une enquête pour conflit d'intérêts qui a été mis en place. Ça a été dénoncé parce que Novaxia, en fait, juste après l'Hôtel Dieu, en fait, après l'attribution du projet de l'Hôtel Dieu, Jean-Louis Missica est parti de la mairie de Paris pour aller travailler chez Novaxia. Alors que ce monsieur faisait partie du jury
pour attribuer
les marchés. Donc voilà. Et, on se doute bien, excusez-moi, mais on se doute bien qu'il y a magouille et compagnie à chaque fois.
tout cas, les rapports publics-privés sont des fois difficiles. Vous, sur le,
alors,
la perception des rhétoriques utilisées par Novaxia.
Novaxia, j'allais dire, c'est un promoteur qui est spécialisé dans des opérations un peu atypiques. Et donc, là, c'en est une. Alors, il vous explique qu'il travaille très bien, que tout ça, et c'est peut-être vrai, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais ce que je trouve le plus étonnant, c'est pourquoi a-t-on besoin d'un Novaxia? C'est ça la vraie question. Puisque on a un hôpital qui est en plein cœur de Paris et qui est un monument remarquable, hein. Je vous renvoie aux travaux de la commission du Vieux Paris.
Un des seuls monuments, l'architecture en peigne, monument en peigne.
Alors, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que l'architecture en peigne. Donc, c'est en peigne, ça veut dire vous avez une barre et puis des barres transversales qui sortent de ces barres. Donc, ça fait un peu un peigne. Et il y a un double peigne pour l'Hôtel Dieu. Mais il faut savoir que c'est un mode de construction qui a été mis au point à la fin du XVIIIe siècle parce qu'on considérait que ça ventilait mieux les salles d'hôpitaux et donc c'était meilleur pour les malades, si vous voulez. Et donc, c'est quand même quelque chose qui fait aussi partie du patrimoine architectural, non seulement de Paris, mais de la santé. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque part. Eh bien, cette architecture remarquable, d'ailleurs, je crois, David, que vous, on en parlait un peu avant l'émission, mais vous avez une excellente nouvelle, je vous laisse l'annoncer.
Oui, en fait, le bâtiment de l'Hôtel Dieu a été classé monument historique au mois d'avril, on a vérifié tout à l'heure, au mois d'avril. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour l'avenir.
Et donc, ce classement a été réclamé depuis des années par des associations comme la nôtre. Et heureusement, la commission du Vieux Paris l'a réclamé. Il y a eu trois sessions de la commission du Vieux Paris sur l'Hôtel Dieu. Et on peut dire que c'est la dernière qui date donc du 21 novembre 2019 qui a fait basculer, je dirais, les choses. Et je vais revenir sur Novaxia, c'est intéressant. Mais il faut que vous compreniez, que j'explique ça d'abord pour que les gens, nos auditeurs, comprennent bien un petit peu la logique. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, la commission du Vieux Paris? Elle dit d'abord, c'est un bâtiment remarquable dans l'architecture hospitalière. Bon. Ensuite, il est tout à fait scandaleux qu'elle ne soit pas, que ce bâtiment ne soit pas classé. L'a réclamé trois fois de suite, si vous voulez. Elle dit, mais que fait la mairie de Paris pour qu'elle ne demande pas, elle, ce classement? Or, elle avait refusé jusqu'ici de demander ce classement, parce que, comme vous le savez, la PHP et la mairie de Paris, c'est très proche, puisque le conseil d'administration de la PHP est plus ou moins sous le contrôle de l'hôtel de ville.
La maire de Paris est présidente du conseil de surveillance
du conseil de
la PHP, et son adjointe à la santé fait partie aussi du conseil de surveillance.
Donc, un classement de l'hôtel Dieu aurait gêné le projet de redéploiement de l'Hôtel Dieu, si vous voulez. C'est désormais chose faite. Alors après, maintenant, le projet dont on parle, qui prévoit, faut peut-être l'expliquer, que un tiers de l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire à peu près 20 000 mètres carrés, voire...
C'est plus. Même.
C'est plus, hein, ouais, c'est ouais, presque c'est plus. 30 000 mètres carrés, soit concédé pour 80 ans à une société privée avec une logique lucrative, en fait. Hein, qui va faire un projet mixte, eh bien, c'est ça qu'il faut expliquer, en fait.
Hein. Oui, on va l'expliquer aux auditeurs dans un instant. Donc, on le comprend, une architecture qui est pensée pour l'humain, pour soigner des patients.
Exactement.
Et non pas des méga-structures. C'est les mêmes reproches qui sont faits au nouveau tribunal judiciaire de Paris.
Exactement. Où,
par exemple, magistrats et avocats qui pouvaient se rencontrer avant ne se rencontrent plus. Les frontières sont étanches, tout est optimisé pour le meilleur ou pour le pire. L'auditeur en jugera. Nous marquons une petite pause musicale et décidément nos sujets ne se prêtent guère à une playlist adaptée. Alors, comme le mouvement est présenté comme inexorable, voici un petit rappel d'un hit qui avait marqué son temps, qui nous permet de filer la métaphore du désert musical, j'ai nommé « Et le désert avance » de Madame France Gall.
Ou Dieu qui nous foudroie, et le désert avance. Plus personne n'y croit, c'est notre déchéance.
commence l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout arrêtent danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans pub ni système hiérarchique, avec deux défenseurs du patrimoine de l'Hôtel Dieu et de l'île de la Cité. Il est 11h, nous sommes le 11 novembre et je voulais juste interrompre un tout petit instant pour un court instant de recueillement. Alors que nous sommes tous, du moins je l'espère, au chaud, il y a 38 352 jours, soit 105 ans, certains, à cette heure précise, mouraient encore ou venaient de mourir il y a quelques minutes, d'autres tremblaient de froid dans la boue. L'armistice scellant la fin de la guerre des tranchées prenait effet à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Même si la ligne directrice de cette radio n'est pas vraiment pro-militariste, loin s'en faut. Que l'on ait été réformé P4, que l'on soit punk, hippie ou élève à Saint-Cyr, rendre hommage à ceux qu'on a poussés à s'entretuer n'est ni une digression lyrique, ni une élucubration réactionnaire. Pensons notamment à Augustin Trébuchon, que l'histoire reconnaît comme le dernier mort officiel, avec de grandes guillemets, toute cette boucherie. Il n'y aura pas de trompette, mais ce petit rappel m'est apparu nécessaire, peut-être pour aller vers son prochain, qu'il soit allemand, norvégien, je ne sais pas, palestinien au hasard ou israélien. Pour clore rapidement cet hommage, après tout pour se comprendre, cela passe d'abord par la langue. Apprenons ensemble un des plus beaux mots de la langue allemande, le terme de Mitmenschlichkeit, que l'on peut traduire de plusieurs manières comme l'humanité que nous avons en nous ou encore la compassion. Parenthèse close. Après ce tour d'horizon de la jeunesse des engagements militants de mes deux invités, est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous avez compris que finalement l'Hôtel Dieu allait être cédé, même si c'est en partie...
En fait, c'est surtout quand on a appris dans le journal qu'en 2010, comme je disais, que l'Hôtel Dieu allait fermer. Au départ, et c'était même pas, on va dire que c'était même pas prévu d'être cédé, c'était même, c'est vendu purement et simplement. On en prend conscience, en fait, surtout au départ on n'y croit pas, etc. Même si on rentre dans la lutte pour conserver l'hôpital, mais on commence à y croire. C'est quand ils commencent. Désolé, j'utilise pas toujours des mots, mais quand ils commencent à foutre un peu le bordel dans les services, c'est-à-dire que comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont
étouffé l'hôpital.
Dans les services, on prenait plus de rendez-vous, on faisait plus d'hospitalisation, etc. Donc du coup, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas besoin de personnel. Donc le personnel, on le redéploie ailleurs. dans d'autres hôpitaux, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et on s'est retrouvé avec des collègues des fois où la direction venait, disait bah voilà, votre service va déménager, sauf que dans le déménagement, parce qu'au départ on nous le vendait en disant on va fusionner les services.
Optimiser peut-être.
Voilà, non, pas optimiser. Non, pas on optimiser. Va fusionner pour rendre une meilleure qualité, parce que ça sert à rien d'avoir une pneumologie ici et une pneumologie dans un autre hôpital. Sur le fond, c'est pas bête. Sur la forme, quand à la PHP on fusionne, dans la fusion, on supprime des lits et du personnel. Systématiquement. Donc, nous, c'est ça qu'on comprenait. Enfin, qu'on comprenait pas, on comprenait, mais c'est ça qu'on dénonçait, en fait. Voilà, vous voulez fusionner, ok, d'accord, parce que pour réduire. Parce qu'il y a toujours une réduction de coûts, hein, pour réduire les coûts. Dans ces fusions, toujours des suppressions de postes. Et donc, du coup, la direction venait dans les services et disait, bah voilà, vous êtes 20, mais dans le regroupement, on pourra en garder que 10. Donc, démerdez-vous entre vous. Choisissez qui. Voilà comment ça se passe, comment ça s'est passé.
Tout ça en redirigeant de manière volontaire les patients vers d'autres hôpitaux.
Exactement. Voilà.
On pense à la Riboisière notamment.
Voilà. Pour ses conditions d'accueil. En 2010, ce qui s'est passé vraiment, parce que en fait, ce qu'on dit souvent nous, c'est les urgences sont la vitrine de l'hôpital. Et en fait, ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'ils ont carrément et purement fermé les urgences. Enfin. Dans la parole, purement et simplement fermer les urgences. Donc ils ont fait toute une campagne de communication en disant l'hôtel lieu, les urgences de l'hôtel lieu sont fermées, les urgences de l'hôtel lieu sont fermées, les urgences... alors qu'on n'était pas fermés. Mais battre une campagne comme ça systématiquement en disant que c'est fermé, les gens ils y ont cru. Et aujourd'hui, même moi aujourd'hui, ça m'arrive de prendre des rendez-vous médicaux, discuter, dire je travaille à l'hôtel lieu, et on me dit mais c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé, c'est encore ouvert. Les urgences, je dis à tous les auditeurs, les urgences de l'hôtel lieu sont ouvertes. Si vous voulez, si vous n'avez pas quelque chose de trop grave, puisque malheureusement on n'a pas les services adéquats, mais vous, même si vous avez quelque chose de grave, vous pouvez quand même venir, vous serez transféré ailleurs, mais vous ne serez pas à l'hôtel Dieu. Mais si vous voulez venir vous faire soigner à l'hôtel Dieu, vous pouvez passer aux urgences, et c'est là où on attend le moins dans toutes les urgences de l'Île-de-France.
Ouais, je confirme, moi j'en suis un utilisateur, et les gens du quartier utilisent les urgences. D'ailleurs, sur les urgences, il y a quand même une absurdité, et je tiens à le dire à la radio, qui est prévue dans le nouveau projet, c'est qu'on veut faire, aujourd'hui, les urgences, on y accède par la rue de la Cité, c'est-à-dire par le côté palais de justice, si vous voulez, et on veut faire l'arrivée des urgences côté rue d'Arcole, alors que cette rue va être piétonnisée, et sachant que les urgences, c'est quand même des sirènes et tout, et qu'il y a tout un tas de gens qui vivent là. Et pourquoi cette absurdité? Tout simplement parce que Dominique Perrault a dit qu'il faut maintenir le flux entre le marché aux fleurs et le parvis. Et que les urgences gêneraient ce flux de touristes, ah oui, si vous voulez.
Du coup, les
donc
patients,
les urgences,
soins,
c'est quand même.
C'est magnifique. D'ailleurs, si on veut jouer au jeu des chiffres, sans assommer l'auditeur, on nous parle de faible activité. On voit comment certains autres services d'urgence sont saturés. Et en parcourant les statistiques de l'Agence régionale de santé, hein, qui n'est pas une petite officine de sombres militants, partisans, ça ne semble pas du tout évident. Au contraire, on note une hausse de 2010 à 2020 jusqu'au premier confinement qui est continue. David, vous évoquez dans Le Chiffon, notre journal dans le numéro d'été, que les chiffres sont un petit peu difficiles à trouver. Vous évoquez que dans les années 2000, il y avait environ 400 lits. On est à 60 aujourd'hui et 500 postes. Pourquoi c'est une absence de données très précises? Pourquoi il n'y a pas de bilan annuel comme une bonne entreprise privée, genre.
Non, ouais. Après, c'est il y a la dernière nouvelle. Oui, on est la direction en CHS. Enfin, anciennement le CHSCT nous évoquait environ un petit peu plus de 500 personnels. On est descendu à un moment à 300 personnels à l'Hôtel Dieu. Oui, au début, moi quand je suis arrivé en 2005, oui, on était 2500, tout personnel confondu, médecins, etc. 2500 personnes et 400 lits. Il faut bien se rendre compte de ce que ça fait. Enfin, c'est énorme. Et on passait pas un endroit sans rencontrer un collègue, dire bonjour, etc. Et en plus, le Tédieu, bah, comme ça a été dit, c'était un petit... Bon, vous, c'est pour le quartier, mais nous, c'est un petit village.
Bah, bien sûr.
Tout le monde se connaissait, tout le monde parlait. On consommait aussi dans le coin, hein, dans le quartier. Les gens allaient au restaurant, allaient consommer dans tous les commerces qu'il y avait de proximité, qui certains ont disparu, malheureusement. Ouais, c'était un petit village et tout. Et du jour au lendemain, bah, comme je disais, c'est vraiment en 2013 où ils ont commencé vraiment à chasser, quand je dis chasser, à fermer les services, chasser tout le monde, réduire l'activité. En fait, c'était systématiquement, c'était ça, on assèche l'activité. Et donc, du coup, comme il n'y a pas d'activité, ça sert à rien de rester ouvert, donc on ferme.
Et sur, il y a quelque chose quand même qui affleure dans tout ce que vous dites, c'est cette absence de rencontre, chacun vivant un petit peu, comme il peut, survivant comme il peut et ne se rencontrant plus. Vous qui êtes syndicaliste, c'est l'inverse. Vous êtes dans la rencontre. Et dans la spécificité qui faisait l'Hôtel Dieu, de ce que j'ai pu en voir, il y avait une permanence d'accès aux soins, global. On avait une prise en charge générale, bucco-dentaire, ophtalmologique, notamment pour les patients les plus fragiles et précaires. Une maison des femmes nouvellement ouverte avec des psychiatres, psychologues, sages-femmes, police-justice, associations, etc. Qu'en sera-t-il dans le nouveau projet de cette interdisciplinarité qui faisait sa richesse?
Alors, tout ça, normalement, c'est gardé. En fait, ce qui existe à l'Hôtel Dieu actuellement, c'est ce qui sera gardé... C'est ce qui est dit. Hein.
Ce qui est annoncé, voilà. Qui sera gardé.
Voilà. Ce qui sera gardé dans
Gardons
le nouvel...
l'œil ouvert.
Voilà. Ce qui sera gardé dans le nouvel Hôtel Dieu. Sauf que comme on disait, comme ça a été plus ou moins évoqué, l'Hôtel Dieu aujourd'hui c'est presque 60 000 mètres carrés de superficie de soins, j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est important, ce sont des superficies de soins. Hein. Dans le futur Hôtel Dieu, ce sera à peine 11 000 mètres carrés de superficie de soins pure. Je parle.
Voilà, c'est ça. Le reste sera dévolu à des...
Le reste est dévolu à, voilà,
pharmacie centrale.
À l'administration, à des sociétés, parce qu'on a pas mal de sociétés privées qui s'incrusent dans l'hôpital public aussi maintenant.
Hein. Oui, vous parlez d'un découpage en morceaux pour le privé.
Il y a des start, même au sein de la PHP, on a des associations, des trucs privés qui s'installent au fur et à mesure. Il y en a un peu partout dans tous les hôpitaux de la PHP. Hein. C'est pas que à l'Hôtel Dieu, c'est pas que spécifique à l'Hôtel Dieu, mais il y en a partout. Et après, il y a la découpe, comme ça a été fait, moitié-moitié, c'est-à-dire la partie hospitalière et la partie Novaxia, Parvis Notre-Dame, puisqu'ils ont choisi le meilleur morceau de l'Hôtel Dieu, hein, bien sûr. Tout ce qui est côté Parvis Notre-Dame, c'est pour eux, avec la belle entrée de l'Hôtel Dieu, l'entrée emblématique de l'Hôtel Dieu, tout ça. Et nous, on se tape le recoin de la cave, entre guillemets, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui est palpable, qui n'est pas juste un fantasme de votre part. On pense à l'hôpital Laennec, par exemple, qui est devenu le siège d'une partie du groupe Kering, qui est un groupe de luxe.
C'est ça.
Un hôpital qui a plus de 4 siècles.
C'est ça. Saint-Vincent-de-Paul aussi, qui a été vendu pour une bouchée de pain à la mairie de Paris. Alors, c'est encore un promoteur immobilier qui se récolte le pompon. Et voilà, bref.
Maxence, vous souhaitiez...
Oui, parce que, en fait, que va devenir ce projet? Parce que ce qu'a souligné la commission du Vieux Paris, c'est l'incohérence de la réhabilitation. Puisque la réhabilitation, qu'est-ce qu'elle fait? On dit la meilleure partie, vous venez de le dire, David, passe au privé, quelque part, avec une concession de 80 ans et avec un projet à but lucratif.
Pour une bouchée de pain, je précise.
Mais en se disant que les loyers qui vont sortir de cette concession permettront de financer le reste. Ensuite, le reste, on densifie dans les cours. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus assez de surface pour l'activité hospitalière. Mais pourquoi n'a-t-on plus assez de surface? Parce qu'on a donné un tiers de l'Hôtel Dieu à du privé. Et puis ensuite, pour faire bien, si j'ose dire, on consacre le bâtiment qui serait le plus logique, qui donne sur la rue de la Cité, pour mettre des start-up à coloration santé, mais dont on voit pas bien leur rôle ici, en plein cœur de Paris, à la place d'un hôpital qui a 1400 ans, si vous voulez. Donc cette logique-là, elle est incohérente, enfin elle a une cohérence, mais sa seule cohérence, c'est une cohérence financière, on l'a bien compris. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si la nouvelle que vous venez de nous annoncer, qui est tout à fait formidable, le classement comme monument historique de l'Hôtel-Dieu, je me demande si ça ne va pas remettre en cause ce projet, puisque je ne sais pas si le classement va autoriser qu'on densifie dans les cours, si vous voulez, puisque la commission du Vieux-Paris soulignait que cette architecture en peigne, eh bien, il y avait une alternance de vide, les cours, et de bâtiments, et que c'est ça qu'il fallait préserver. Or, si on densifie, qu'on fait des grands immeubles en verre de 5 étages, ce qui était le projet initial de la mairie, hein, au milieu des cours, évidemment, tout ça disparaît et gâche toute la cohérence du bâtiment. Alors, avec ce classement, je ne sais pas ce que ça va donner. Voyez.
Et je rajoute, il y a eu un petit coup d'arrêt aussi, là, juste avant l'été, là, c'est la modification du PLU qui prévoit, alors PLU, plan local d'urbanisme, qui prévoit, parce que voilà, la superficie aujourd'hui, enfin le terrain aujourd'hui sur lequel est bâti l'Hôtel Dieu, c'est un terrain à vocation hospitalière, enfin sanitaire.
Voilà.
La modification du PLU permettrait à la mairie, etc., et pour le projet, de découper en deux le terrain et de modifier le type sanitaire en type commerce, etc.
Pour la partie Novaxia.
Pour la partie Novaxia. Et nous, c'est ce qu'on veut pas, c'est un peu le dernier rempart. Et donc, ils sont prêts à un taquet juste avant l'été. Ça a été rebooté, personne n'a voté la modification du PLU de l'Hôtel Dieu, pour l'instant. Alors, après, on ne sait pas.
Donc,
ils vont le resoumettre au vote.
Ils vont revenir à l'attaque.
Oui, ils vont revenir à l'attaque. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en soi, dans le PLU, à l'instant où on se parle, le projet Novaxia n'est pas possible.
Non.
Vous voyez.
Et j'entends tout à fait, les auditeurs doivent rester attentifs. D'ailleurs, on aura un correctif de fausses bonnes nouvelles à donner tout à l'heure. Nous sommes pressés par le temps, mais se pose encore et toujours la question du devenir des nobles intentions. Donc le contrat est censé durer 80 ans. Est-ce que vous avez eu d'autres engagements que purement déclaratifs sur les suites qui vont être données à tout ça? Je pense notamment aux 30 millions d'euros de budget qui vont être donnés pour l'amélioration des conditions de travail, la prise en charge des patients, etc. On évite un scandale à la France Télécom, on en parlait tout à l'heure. Quel suivi vous espérez? Est-ce que vous avez des pistes de l'emploi de ces sommes ou est-ce qu'on va finir avec un numéro vert
On finira peut-être avec un numéro vert, malheureusement. En fait, on ne sait jamais où va l'argent. Le problème, il est là. On a des médecins à l'époque qui travaillaient à l'Hôtel Dieu, qui ont fait des dons pour la rénovation de parties de l'Hôtel Dieu, enfin d'amphithéâtre, etc. L'argent a disparu. C'est systématiquement comme ça. À l'Hôtel Dieu, aujourd'hui, c'est plutôt un décor de télé, donc c'est quasiment tous les mois on a des gens qui viennent filmer pour des films, des séries, enfin des trucs, et du coup cet argent là c'est pareil, on sait pas où il va. Parce que bon, ils sont payés, mais on ne sait pas où il va. On pose la question, hein. C'est pas qu'on pose jamais la question, mais on ne sait jamais nous répondre correctement où l'argent est dépensé.
Faites interpeller la Cour des comptes.
Voilà. Et Novaxia, on en revient toujours au même, hein. C'est une concession de 80 ans pour Peanuts. De base, le nouvel Hôtel Dieu devait être financé avec la vente de l'hôtel Scipion, pareil, un monument magnifique dans le 5e arrondissement. Et finalement, on a appris là, il y a pas, ben, au dernier CHSCT, que finalement, ça servirait pas. C'est pas cet argent-là qui servira à financer le nouvel Hôtel Dieu. Ça serait les loyers que Novaxia paierait. Donc tout est fait en gros pour nous dire que si ce projet-là est pas viable, rien n'est viable pour l'Hôtel Dieu.
Après, vous avez toujours le recours en justice et justement, ça m'amène à tempérer une nouvelle qui avait été annoncée avec pertinence dans notre dernier numéro d'été du Chiffon. Pardonnez-moi une seconde, voilà. Notre numéro relaté, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle. J'étais d'ailleurs partisan de cette ligne, de temps en temps parler de choses qui se passent bien. Mais il faut déjà mettre de l'eau dans le vin de notre optimisme. Le tribunal administratif de Montreuil avait effectivement considéré que la déclaration préfectorale d'utilité publique du remplacement des hôpitaux Bichat et Beaujon, respectivement Paris 18 et Clichy, par un centre hospitalier Grand Paris Nord, devait être annulée pour deux raisons. Un motif procédural, passons les détails. Il y a une diminution de l'offre de soins proposée au public, donc une utilité publique réduite, qui est une notion juridique. Cependant, la cour administrative d'appel, le 24 octobre dernier, donc après l'apparition de notre journal malheureusement, saisie d'un recours bien sûr contre ce premier jugement audacieux, ne suit pas l'argumentaire sur la déclaration d'utilité publique des premiers juges. Seul le vice de procédure amène la cour à enjoindre l'État de procéder à une nouvelle enquête publique sur la base d'un dossier complet. Donc j'invite les auditeurs à être attentifs à ce mouvement. Est-ce que vous avez d'autres rapports avec d'autres personnels de santé ou d'autres de vos collègues?
Oui, bah, on est toujours mobilisés sur Bichat-Beaujon, sur les autres hôpitaux. On reste mobilisés. Après, c'est la grosse bataille là, par rapport aux fermetures d'hôpitaux. C'est une des grosses batailles, c'est Bichat-Beaujon, ce qui est une absurdité totale. Puisque la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus défavorisés en termes de santé. Donc, fermer deux hôpitaux. Alors certes, Bichat, c'est 18e, mais c'est à la limite de la Seine-Saint-Denis. Donc, il y a beaucoup de gens de la Seine-Saint-Denis qui viennent sur Bichat. Beaujon, qui maternité, etc. Enfin, bref, on en passait des meilleurs. Et l'aberration, c'est de fermer... L'aberration, c'est de fermer les deux avec une suppression de 1000 postes et 400 lits. Comment ? Et nous, ce qu'on dit, c'est rénover les deux hôpitaux, ces deux hôpitaux, et en construire un nouveau en Seine-Saint-Denis. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas...
Plutôt qu'une méga-structure qui...
Et ça sert à rien. En fait, les méga-structures, ça sert à rien. On soigne pas mieux et on soigne pas... Là où la prise en charge est la meilleure, c'est dans des hôpitaux de proximité et à petite échelle. Les infrastructures, les gros hôpitaux, ça sert à opérer, ça sert à... C'est pour tout ce qui est... Enfin, pour tout ce qui est, j'allais dire, gros œuvres, tout ce qui est plus gros. Mais après, le reste, ça se fait dans des hôpitaux de proximité. On n'a pas besoin d'aller dans une hyperstructure où on a un anonyme, on arrive, enfin...
C'est comme les hypermarchés et les supérettes.
C'est pareil. Hein.
Les hypermarchés, ça marche très mal maintenant, aujourd'hui, et on revient aux supérettes, c'est-à-dire à côté de là où les gens vivent. Hein. Et les hôpitaux, c'est la même chose. Hein.
Et les années Giscard sont loin, et la croissance éternelle. Alors, comme je le disais, on va être un peu pris par le temps, mais comment vous envisagez le futur? Vous me racontiez tout à l'heure, on n'aura pas le temps pour l'auditeur, mais comment s'est menée votre lutte? Comment vous rencontriez différents corps de métier? Comment vous avez occupé les lieux de l'Hôtel Dieu? Comment ça va se passer pour la suite?
On a occupé les lieux, on a rencontré d'autres personnes en interpro, on a pu échanger, discuter, enfin voilà. Après, la suite, ben, comme on dit, on essaye de travailler parce qu'il faut hein, aussi je veux pas dire malheureusement, mais avec les politiques, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Donc on essaye de travailler avec les politiques, en l'occurrence avec la mairie de Paris. On essaye de travailler avec certains élus pour s'opposer au projet.
Comment se passe cette coopération? Vous êtes des fédérations
Ben après ça dépend
de la couleur.
Ça dépend de la couleur de l'étiquette politique. Des fois c'est bon, après on va pas se mentir hein, ça dépend de la couleur de l'étiquette politique. Moi je me suis déjà vu aller pour la présentation d'un vœu au Conseil de Paris et toute la partie droite de l'hémicycle quand ils ont entendu Hôtel Dieu, ils disent on en a ras le cul de cet hôpital. Donc bon, c'est violent, c'est assez violent quand on... Enfin, nous, on est là, on travaille, et c'est assez violent quand on entend ça. Mais bon, voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des sujets qui soient... Mais bon, c'est un sujet important. C'est un hôpital, c'est pas... Là, on parle pas d'un McDo ou je sais pas quoi qui va fermer.
Ah, il est censé ne pas y avoir de McDo.
Ouais. Bon, il est censé pas y avoir de McDo, mais il est censé y avoir...
La restauration rapide.
Ouais, ouais. On nous a vendu ça à l'époque. Alors, ça nous avait fait rire en CHSCT. Ouais, une petite anecdote, c'est de dire...
CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, à l'époque.
Et on nous avait vendu ça en nous disant, oui, mais vous vous rendez compte, on va faire un restaurant bouillon comme Chartier, accessible au peuple, à tout le monde, etc. Donc, enfin bref, que du gnangnan. Et le médecin qui sans citer son nom aussi, qui s'était emporté en disant, moi j'en ai rien à faire de ce qu'on met dans l'hôtel-lieu du moment que ça rapporte de l'argent. On peut y avoir du Chanel, du Suisse, je m'en fous, tant que ça rapporte de l'argent, voilà.
Sachant que ça va en contradiction directe avec ce joli vocable qui est toujours employé, enfin qui est très à la mode en ce moment, on nous évoque une synergie entre les différents projets, entre l'incubateur, la maison des associations, les équipes de la PHP. Avez-vous assisté à cette synergie?
Pour l'instant, les collègues m'ont dit, alors Biolab s'est déjà plus ou moins installé à l'Hôtel Dieu, dans une partie de l'Hôtel Dieu, hein. Et alors Biolabs, pour citer, pardon, c'est Novaxia a le projet immobilier, va, et Novaxia va louer, donc lui il loue à la PHP, et Novaxia va louer ses locaux à Biolabs en l'occurrence, qui est une grande start-up américaine
de recherche
et Biolabs, eux, vont louer à des start-up. En fait, c'est de la sous-location.
Ouais,
c'est de la sous-location, de la sous-location, de la sous-location, bref. Et ils sont déjà plus ou moins installés. Et en fait, les collègues me disent qu'il n'y a pas du tout d'interaction. C'est plutôt snobinard. Ça snob plus qu'autre chose.
Et moi, je pense que quand même, on attend le nouveau permis de construire que doit déposer l'hôtel de ville, hein, la PHP, si vous voulez, puisque à la suite des décisions de la commission du Vieux Paris, Anne Hidalgo s'est rangée sur l'avis de la commission du Vieux Paris, à savoir que le projet actuel ne fonctionnait pas et ne respectait pas le monument. Dans l'intervalle, on a eu le classement en monument historique. Et donc, la PHP doit revoir sa copie. Et on l'attend pour début 2024. Et en fonction de ça, eh bien, on réagira et on essaiera de défendre ce monument et la vie de quartier.
Oui, avant de rendre l'antenne, David, allez-y.
Juste un dernier petit truc qui, pour moi, c'est je trouve ça important, c'est... on a des jardins à l'Hôtel Dieu, des grands jardins très très beaux. Bon, ils sont moins bien entretenus maintenant, mais ces jardins servent pour les personnels, entre guillemets, mais aussi pour les patients. C'est bénéfique pour leur... est-ce qu'on a de la psychiatrie, pardon. Et donc, c'est bénéfique pour eux, pour qu'ils se sentent mieux, etc. Et, tout. Et dans le futur projet Hôtel Dieu, ces jardins disparaissent totalement et sont cédés à la mairie de Paris pour un projet, enfin bref, nanana. Et nous, on va se retrouver pour ces patients avec une petite terrasse d'environ 50 mètres carrés pour qu'ils se sentent mieux. Voilà. Je trouve ça aberrant aussi de supprimer ces beaux jardins pour les patients.
Sachant qu'il était censé être maintenu un département de psychiatrie qui est le parent pauvre de l'hôpital entre tous.
Il est censé...
50 mètres carrés pour s'ébrouer.
C'est ça, ouais. Il est censé... la psychiatrie parent pauvre, et on est censé... C'est censé se développer sur l'hôtel-lieu et dans le futur projet hôtel-lieu. Mais on supprime les jardins qui servent à l'amélioration de l'état de santé des patients.
Non, verte, hein.
pour que l'émission se termine sur une note en tout cas utile, je rappelle aux auditeurs, hein, Paris Lutte Info, l'agenda des luttes de Paris et de la banlieue notamment. Est-ce que vous avez un rendez-vous pour les auditeurs?
Pour l'instant, ouais, il y a le rendez-vous le 16 devant le ministère de la Santé pour la défense des hôpitaux. Au 16 novembre, pardon, pour la défense des hôpitaux et conditions de travail, etc., etc. C'est un peu toujours le même rituel pour nous, mais c'est d'actualité malheureusement, vu qu'il y a plein d'hôpitaux qui ferment un peu partout en Ile-de-France, mais pas que en Ile-de-France, en France, un peu partout, etc. C'est un peu la galère.
Et nous, notre association pour la défense du site de Notre-Dame et de ses environs, elle tient son assemblée générale le 29 novembre, là, au 17-18 rue du Cloître Notre-Dame. Et vous êtes tous les bienvenus si vous voulez rejoindre cette association. Hein. Cotisation n'est pas très élevée et c'est un bon combat.
Et je vous invite à aller sur le site pour trouver la pétition pour sauver ces pauvres libraires victimes des Jeux Olympiques. C'était donc l'émission qui déplie le chiffon, le seul journal indépendant de Paris.
Paris et sa banlieue. Au format papier, on y tient. Pour nous trouver dans toutes les bonnes librairies de l'Est parisien, notamment, mais pas que, comme Le Monte en l'air, Le Maire, L'Homme au cœur, Publico, Quilombo, liste exhaustive sur lechiffon.fr. Pour participer, que vous soyez zadiste, saint-cyrien, docteur en sociaux ou jeune sylviculteur, proposez-nous vos sujets, les chiffonniers iront enquêter pour vous. L'équipe du Chiffon, c'est 3 générations de collaborateurs dédiés à un trimestriel qui se veut impérissable. Notre dernier numéro, dédié à la métropole et ses rouages, nous proposait notamment une enquête sur notre thème du jour, mais également une plongée dans le plus grand data center de France, un reportage sur les villages des athlètes et des médias en prévision des JO qui vont bouleverser la métropole, ou encore un constat cinglant sur l'impact du RER sur la banlieue. Entre autres, de quoi nourrir la réflexion pour le prix de 3 croissants. L'abonnement coûte le prix de 2 livres de poche. Alors n'hésitez pas, d'ailleurs Maxence va s'abonner en fin d'émission.
Absolument,
je ne l'oublie pas.
Absolument.
À mes côtés ce matin, je vous remercie donc David Frémiot et Maxence Eka.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Votre livre anniversaire des 50 ans de combat pour le site de Notre-Dame est disponible au siège de l'association. À la technique, il y avait Gary et votre fidèle serviteur Paul. Rendez-vous le deuxième samedi du mois de décembre pour la prochaine émission avec En Fanfare, notre numéro spécial dédié aux Jeux Olympiques. Que cette journée de commémoration vous soit belle. On se quitte justement en langue allemande avec un tube planétaire partagé par tous les camps durant la guerre suivante. J'ai nommé la grande Marlène Dietrich, Lili Marlène, à ciao, bonne journée.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Thank you.
Ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la Nico patron.
Bonjour, Christian, donc l'Union syndicale solidaire pour cette émission chronique syndicale comme chaque deuxième samedi du mois. Et aujourd'hui, ça sera une émission consacrée